Chapitre 3. Nathanaël à Lothair. Il m'est fort désagréable que Clara ait ouvert et lu ma dernière lettre, par suite d'une erreur dont ma distraction, il est vrai, est la seule cause. Elle m'a écrit une lettre sérieuse et philosophique, dans laquelle elle établit longuement que Coppelius et Coppola n'existent point en réalité, et que ce sont des fantômes de mon imagination que je puis voir s'évanouir à mon gré par la simple réflexion. On ne croirait pas, en effet, que l'esprit qui se reflète dans ces grands yeux de jeune fille, dont le sourire gracieux nous caresse comme l'image d'un rêve doux et charmant, on ne croirait pas, dis-je, que cet esprit puisse argumenter aussi judicieusement et aussi magistralement. Elle suit tes inspirations. Vous avez parlé de moi. Tu lui lis peut-être de gros traités de logique pour lui apprendre à bien peser et à débrouiller toute chose. Laissons cela. Au reste, il est positif que le marchand de baromètre, Giuseppe Coppola, n'est nullement le vieux avocat Coppelius. Je suis les leçons du professeur de physique nouvellement arrivé ici, qui se nomme Spallanzani, comme le célèbre physicien, et est aussi d'origine italienne. Il connaît Coppola depuis plusieurs années déjà, et d'ailleurs on reconnaît à la prononciation de celui-ci qu'il est vraiment piémontais. Coppelius était allemand. Seulement, je ne dis pas que ce fut un honnête Allemand. Je ne suis pas entièrement tranquillisée. Regardez-moi toujours, toi et Clara, comme un sombre rêveur. Mais je ne puis me délivrer de l'impression qu'a produite sur moi la ressemblance maudite de Coppelius. Je suis content qu'il ait quitté la ville, comme Spallanzani me l'a appris. Ce professeur est un personnage singulier. C'est un petit homme tout rond, les os des joues et de la face très prononcés, le nez fin, les lèvres déjetées et des petits yeux perçants. Mais tu peux en avoir une idée plus vraie que par n'importe quelle description en regardant le Cagliostro de Chodowiecki dans je ne sais quel almanach de Berlin. C'est l'exact portrait de Spallanzani. Dernièrement, je montais son escalier, je m'aperçois que le rideau d'une porte vitrée, soigneusement fermée d'ordinaire, laissez passer un petit jour sur le côté. Je ne sais comment j'eus la curiosité d'y appliquer l'œil. Une femme d'une taille élancée et de la plus admirable conformation, vêtue magnifiquement, était assise dans cette chambre, devant une petite table, sur laquelle elle appuyait ses deux bras, les mains croisées. Elle était placée vis-à-vis de la porte, et je pus contempler l'angélique beauté de son visage. Mais elle, tournée vers moi, semblait ne pas me voir, ou plutôt ses yeux avaient je ne sais quel regard fixe, comme dénué, pour ainsi dire, d'aucune puissance de vision. Elle me faisait l'effet d'une personne qui dormirait les yeux ouverts. Je me sentis tout troublé, et je me glissai silencieusement dans la salle du cours, voisine de cet endroit. J'ai appris depuis que la femme en question était Olympie, la fille de Spallanzani, qu'il tient renfermé avec une rigueur brutale et extravagante, au point que personne absolument ne peut en approcher. Après tout, il y a peut-être à cela quelques bons motifs. Peut-être est-elle imbécile ou est-ce une autre raison. Mais à quoi bon t'écrire tant de bavardage? J'aurais pu te raconter tout cela plus en détail de vive voix. Apprends en effet que dans 15 jours je serai près de vous. J'ai besoin de revoir ma douce et chère figure d'ange, ma Clara. Alors se dissipera la fâcheuse disposition qui, je dois en convenir, voulait s'emparer de moi après sa lettre étrange et si positive. C'est ce qui m'empêche de lui écrire encore aujourd'hui. 1000 saluts, etc., etc.